Les grandes heures de la France par Octave Aubry. Chapitre 12e. Napoléon, la France continue. L'Empire. Longtemps, les royalistes ont cru que Bonaparte se prêterait à une restauration. Déçus, ils tentent de s'en défaire. En janvier 1804, une conspiration, dirigée par un ancien chef de Chouan, Georges Cadoudal, où est entré Pichegru et qui a reçu l'adhésion au moins tacite de Moreau, est découverte par la police consulaire. Tous trois sont arrêtés. Tandis qu'on instruit leur procès, Bonaparte apprend que le duc d'Enghien, fils du prince de Condé, se trouve à Ettenheim, dans le grand-duché de Bade, non loin de Strasbourg. Il croit qu'il a partie liée avec Cadoudal. Sur le conseil de Talleyrand et contre l'opinion de Cambacérès, il fit enlever le duc par un détachement de cavalerie. Le prince, amené à Vincennes, comparaît devant un conseiller de guerre qui le condamne à mort pour avoir porté les armes contre la France. La même nuit, par une hâte suspecte qui ne permet pas à Bonaparte d'user de clémence, il est fusillé. C'est un crime. Ce n'est peut-être pas une faute, car le pouvoir du premier consul en sera affermi, et les royalistes perdent cœur. Peu après, Pichegru est trouvé mort dans sa prison. Cadoudal monte à l'échafaud avec 12 de ses complices, et Moreau, depuis la mort de Hoche, seul rival militaire de Bonaparte, s'exile en Amérique. La paix d'Amiens est rompue. L'Angleterre a refusé d'évacuer Malte. Elle reproche à la France sa mainmise sur le Piémont et la Suisse. Elle lui reproche encore, plus sans doute, d'avoir repoussé un traité de commerce qui sacrifierait notre industrie renaissante. La lutte interrompue si peu de temps entre les deux nations va recommencer, cette fois inexpiable. Nous ne la verrons finir qu'à Waterloo. Le pays entier s'est rangé derrière Bonaparte. Les dangers qu'il a courus exaltent la ferveur populaire. Déjà, il a été nommé consul à vie. Secondant son secret désir, Talleyrand et Fouché, au lendemain de l'affaire Cadoudal, poussent à la création en sa faveur d'une monarchie héréditaire qui défendra le régime contre tout retour du passé. Le Sénat s'empresse, le pays applaudit. Napoléon monte au trône dans le halo de gloire de Bonaparte. Empereur des Français, roi d'Italie, car il prend à Milan la couronne de fer des anciens rois lombards, médiateur de la Suisse, il est, au printemps de 1804, le maître incontesté de l'Occident. Pour renouer la tradition et appuyer sa dynastie sur le sentiment religieux, le nouvel empereur désire que le pape le sacre à Paris. Faisant taire ses scrupules, Pie VII vient de Rome à Notre-Dame pour l'oindre et le bénir. Cérémonie extraordinaire, Napoléon saisit lui-même la couronne sur l'autel et la pose sur sa tête. Le geste est symbolique, il ne veut devoir l'Empire qu'à soi. Les deux principaux ministres du règne, les seuls qui soient vraiment supérieurs et qui, en dépit de l'ascendant du maître, voudront avoir leur rôle propre et sauront le jouer, sont Talleyrand et Fouché. Talleyrand, de haute souche féodale, évêque d'Autun en 1789, a, sans croire à Dieu, ni au roi ni au peuple, célébrer la messe à la fête de la Fédération. Sous prétexte de mission à Londres, il a quitté la France et n'y est entré qu'après la Terreur. Madame de Staël et Barras l'ont placé au ministère des Relations extérieures. Il seconde Bonaparte au 18 Brumaire. L'empereur le récompense par la place de grand chambellan, des titres, un flot d'argent. Son intelligence est fine, dédaigneuse, indolente, il paraît grand seigneur du bout de son pied beau à ses cheveux poudrés. « De la merde dans un bas de soie », dira de lui Napoléon. Rien ne fut jamais mieux exprimé. Il réunit presque tous les vices. Aucun serment ne le bride, nulle foi ne le presse. Il fournit à son luxe, à son jeu dévorant, par la constitution, le vol porté à des mesures inconnues. Mais il ne quitte pas ses façons désinvoltes, son sourire de tête de mort, qui, quoi qu'il en ait, imposeront toujours au nouveau César. Quand l'Empire se forme, il a 50 ans, une profonde expérience des choses, des hommes et des pays. Il connaît l'ancienne diplomatie, ses procédés, ses moyens, sa langue. Il sait, presque seul, après la tempête révolutionnaire, parler à l'Europe. Plein de sang-froid, la vue longue, ce politique né pourrait être un admirable serviteur de la France. Il ne servira guère que soi, ses intérêts, ses ambitions. Par le caractère, par la vie, Fouché est à ses antipodes. Cet être pâle, à la bouche serrée, aux yeux glauques et froids, est d'une habileté, d'une souplesse et, s'il le faut, d'une énergie merveilleuse. Il est travailleur, ordonné, toujours égal aux circonstances. Il sait le fort et le faible de chacun, s'empresse à propos, rend partout des services, guette l'heure utile et la saisit sans s'embarrasser d'aucun scrupule. Dans les conseils de l'Empire, il représente l'ancien esprit conventionnel. Il en tire une force singulière qui le fait ménager à l'excès par Napoléon. L'empereur s'en défie, mais ne peut s'empêcher d'avoir recours à lui. Il le disgraciera trop tard, puis le reprendra trop tôt. Double erreur, un Fouché se garde ou se fusille. Il ne sert que tant qu'il se sent dominé. L'heure d'après, il a trahi. La lutte contre l'Angleterre. Napoléon désire la paix. Il en a besoin. Il sait pour tout pouvoir le prix de sa durée. Mais l'Angleterre persévère dans sa volonté d'abaisser la France. Les coalitions vont succéder aux coalitions. Napoléon aura beau les vaincre, la haine britannique lui suscitera toujours de nouveaux ennemis. Jusqu'au jour où, courant d'un bout à l'autre de l'Europe, Napoléon finira par broncher. Alors l'Angleterre sonnera le ralliement des peuples contre la tyrannie impériale. Après une débauche de génie, lâchée par le destin, dont il a trop présumé, ayant d'ailleurs commis de graves fautes, assailli par un monde d'adversaires, mal servi, trahi, diminué, usé, Napoléon s'abattra. Il réunit au camp de Boulogne 150 000 hommes, la grande armée, avec lesquels il compte envahir les îles anglaises. Mais il n'a pas la maîtrise de la mer. Il a négligé la marine. Soldat terrien, il n'a pas dans ses calculs fait assez de part à l'élément naval. Il va le payer. Une manœuvre commandée à l'amiral Villeneuve pour permettre le passage de la Manche échoue. Pendant ce temps, le cabinet de Londres, un grand renfort de Guinée, noue contre lui, avec la Russie et l'Autriche, une troisième coalition. Napoléon aussitôt se retourne contre l'Autriche. La grande armée entre en Bavière. Ulm capitule le 20 octobre 1805, mais le lendemain, l'amiral anglais Nelson détruit la flotte de Villeneuve à Trafalgar. C'est un désastre aux conséquences infinies. Napoléon va essayer de le compenser par une victoire éclatante sur les Austro-Russes. Le 2 décembre, il les bat à Austerlitz. Toute l'artillerie, tout le matériel de l'ennemi reste dans ses mains. L'empereur François demande la paix une fois de plus. Elle est conclue à Presbourg le 26 décembre 1805. L'Autriche perd l'Italie, elle perd aussi la couronne impériale. Le Saint-Empire romain germanique s'effondre, remplacé par une confédération du Rhin dont Napoléon devient le protecteur. L'Angleterre ne se décourage pas. Elle suscite des coalitions successives. La quatrième a pour pivot la Prusse et la Russie. En 6 jours, la Prusse est vaincue, Napoléon la bat à Iéna et Davout à Hochstädt. Toutes les forteresses se rendent à la vue des cavaliers français. Napoléon, entré à Berlin, ne veut pas traiter sans s'être vraiment mesuré avec les Russes. Il les trouve à Eylau. La bataille est terrible. Comme un maringo, Napoléon y frôle la défaite. Nous sommes le 8 février 1807. Le printemps passe dans une attente anxieuse. Le 14 juin, l'empereur défait Bennigsen à Friedland. Le tsar, presque aussitôt, propose un armistice. Napoléon et Alexandre se rencontrent à Tilsit sur un radeau amarré au milieu du Niemen. Et là, non seulement ils font la paix, mais ils s'allient. À deux, ils partagent l'Europe. Napoléon aura l'Occident, Alexandre l'Orient. Tilsit marque le plus haut degré de la puissance impériale. Comme Charlemagne, vers qui sa pensée revient sans cesse, Napoléon réunit dans ses mains l'Allemagne, la France et l'Italie. Cet empire européen, il le gouverne par lui-même jusque dans le dernier détail. Sa capacité de travail est sans égale. Son intelligence géométrique, à la fois étendue et prompte, sa mémoire infaillible, son imagination ardente, alliée au sens précis des choses, ce pouvoir de fascination qui devant lui courbe les esprits les plus prévenus et les hommes les plus éminents du siècle, qu'ils s'appellent Goethe ou Chateaubriand, font de ce soldat de fortune le plus extraordinaire chef de peuple qui est paru depuis César. Il aime et profondément la France. Il veut, fils de la Corse, naguère rattaché, se confondre avec ce vieux corps solide et généreux, faire de cette nation qui s'est remise à lui un mariage de la pensée et du sang. Il s'en considère comme l'émanation encore plus que le sommet. Depuis Clovis jusqu'au comité de salut public, répète-t-il, « Je me tiens solidaire de tout. » J'aime me plaindre des Anglais autant que vous, a dit le tsar en abordant Napoléon à Tilsit. Ces mots ont gagné l'empereur. Plus que jamais, il a conscience que s'il ne force pas l'Angleterre à traiter, L'énorme édifice qu'il a bâti n'aura force ni durée. Pour briser son obstination, il a imaginé le blocus continental qui doit frapper de mort le commerce britannique. Pour l'appliquer dans sa rigueur, et sans cette rigueur il devient absurde, à défaut de la marine écrasée à Trafalgar, Napoléon se voit forcé de tenir toute l'Europe sous une tutelle stricte. De là, un enchaînement d'abus et de violences qui doit peu à peu soulever la plupart des pays contre Napoléon, et tandis que la France s'épuise à les juguler, préparer contre elle non plus seulement la coalition des souverains, mais celle, bien plus redoutable, des peuples. Ce sera pour ôter à l'Angleterre un de ses derniers marchés que Napoléon entreprendra la conquête de l'Espagne. Les fautes de Napoléon. La guerre d'Espagne est l'erreur certaine de l'empereur. Ses meilleurs soldats y périssent en vain. La France s'y affaiblit sans gloire. La splendide résistance du peuple espagnol sert d'exemple à l'Europe et prépare, pour se manifester au premier revers, sa levée massive contre Napoléon. Dépossédant les Bourbons d'Espagne, Napoléon donne la couronne à son frère Joseph que Murat remplace à Naples. Alors la péninsule de proche en proche prend feu. Sur une terre si montagneuse, si déchirée, si propre aux surprises, pas un rocher, pas un buisson, pas un chemin creux qui ne serve à une embuscade. Nos soldats y meurent par milliers. Tous les blessés sont achevés avec des raffinements sauvages. Les troupes françaises se vengent par d'autres atrocités. Palafox défend Saragosse attaquée par l'âne. Le siège dure 4 mois, terrible. Ce douloureux succès est suivi de graves échecs. En Andalousie, le général Dupont essuie une véritable défaite et capitule honteusement à Baylen. Dans toute l'Europe, un frisson court, le géant est touché. Pour établir son prestige, Napoléon décide de passer lui-même en Espagne. Auparavant, afin d'assurer ses arrières, il va resserrer son alliance avec le tsar. Il rencontre Alexandre à Erfurt, où tous les princes allemands viennent l'encenser en octobre 1808. Talleyrand, chargé d'obtenir de l'empereur de Russie qu'il menace l'Autriche, près de se jeter dans la guerre, trahit alors et la négociation échoue. À la tête de la grande armée, Napoléon descend en Espagne. Avec lui, les Français retrouvent la victoire. Mais l'empereur ne peut s'attarder. L'inlassable Angleterre lance contre lui l'Autriche, armée de neuf. L'archiduc Charles, bon général, entre en Bavière. Napoléon court à lui et le bat à Eckmühl. Le 13 mai 1809, Napoléon entre à Vienne. Après un sensible échec à Lobau, les champs de Wagram donnent à Napoléon sa dernière grande victoire. Quelques jours après, le cabinet autrichien demande à traiter. La paix signée à Vienne écrase la monarchie des Habsbourg. C'est une paix brutale, impolitique, par là sans avenir. Sans enfant de son union avec Joséphine, hanté par le souci d'assurer sa dynastie, Napoléon se décide à divorcer. Il espère épouser une jeune sœur du tsar. L'opposition de la tsarine mère fait écarter le projet. L'Autriche offre une archiduchesse de 18 ans, Marie-Louise, fille aînée de l'empereur François. L'empereur demande sa main et l'épouse le 1er avril 1810. Ce mariage ne satisfait pas seulement son orgueil. Il a une signification politique. Reprenant l'idée de Louis XV, ce qu'on appelait le renversement des alliances, Napoléon cherche dans l'Autriche l'allié dont la France a besoin sur le continent pour faire contrepoids à la puissance russe. Quand, un an plus tard, un fils lui naît, fils qui reçoit le titre majestueux de roi de Rome, il semble à beaucoup que sa monstrueuse fortune est fixée et que l'Empire français est assis sur des bases que rien n'ébranlera plus. Il compte alors 130 départements. La France s'étend de la Baltique à la mer Tyrrhénienne. Napoléon est encore le suzerain des États donnés à ses frères et sœurs. Espagne, Naples, Toscane, Westphalie. Mais cette colossale puissance dissimule de multiples points faibles. L'Europe est mal résignée. La France est lasse et maussade. Fouché, Talleyrand, disgracié, intrigue contre l'empereur qui n'ose les foudroyer. La guerre de Russie. La faute suprême de Napoléon, celle qui va entraîner sa chute, est la guerre de Russie, non qu'il l'ait désirée. La rupture de l'alliance franco-russe est imputable à Alexandre. Les choses traînent en longueur. Alexandre gagne du temps pour compléter ses préparatifs. Quand ils sont achevés, il adresse à Napoléon un véritable ultimatum, exigeant l'évacuation de toute l'Allemagne au-delà de l'Elbe. Le 24 juin 1812, Napoléon et la Grande Armée, plus de 400 000 hommes avec les auxiliaires européens, franchissent le Niémen. L'empereur cherche en vain l'ennemi et ne trouve que la steppe. Le 17 août, il prend Smolensk, les rues sont incendiées. Le vieux Koutouzov, le vaincu d'Austerlitz, est alors nommé généralissime russe. Pour sauver Moscou, la ville sainte, il offre la bataille à Napoléon sur la Moscova. La journée est sanglante, Koutouzov se retire cependant en bon ordre, laissant libre le chemin de la capitale. Napoléon y entre le 13 septembre et s'installe au Kremlin. Dès le lendemain, la ville n'est plus qu'un brasier. Son gouverneur, Rostopchine, en la quittant, y a mis le feu. Seul le Kremlin demeure intact. L'armée campe dans les décombres. Napoléon espère toujours qu'Alexandre va traiter. Le tsar n'y pense guère. « Maintenant, dit-il, ma campagne va commencer. » Dans cette attente, Napoléon s'attarde 5 longues semaines. Le 13 octobre, la gelée étant venue, il voit que seule une prompte retraite peut sauver l'armée. Le 19 au matin, il quitte Moscou. Commence alors la terrible, l'effroyable retraite. La neige tombe. Le froid devient atroce. Certains jours, il atteint 40 degrés. Les corbeaux tombent, gelés en plein vol. L'armée harcelée par les Cosaques manque d'habits chauds, de viande et de pain. Elle laisse derrière elle des files de cadavres. Beaucoup de soldats ont jeté sac et fusil et se traînent appuyés sur un bâton. La nuit du Nord couvre pendant 18 heures ces colonnes de spectres qui n'ont plus la force de parler, qui meurent sans un cri. L'armée arrive enfin devant le Niémen. Elle ne compte plus que 50 000 hommes, le reste est mort ou prisonnier. Depuis 10 jours, Napoléon a quitté ses troupes. À Smogorny, il a réuni ses lieutenants et confié le commandement à Murat. Dans un traîneau, accompagné du grand écuyer Caulaincourt, il galope vers Paris. Un événement imprévu y rend sa présence nécessaire. Le général Mallet, républicain détenu depuis 1808 dans une maison de santé, a hasardé un extraordinaire coup d'État. Rien que par l'annonce de la mort de Napoléon, il a réussi à paralyser pour quelques heures toute la machine gouvernementale. L'empereur ne peut garder d'illusions. Lui disparu, le régime s'écroule. Au reste, les nouvelles d'Espagne empirent et une nouvelle coalition se prépare. En raclant le fond des tiroirs, Napoléon met sur pied une armée de 300 000 hommes. Mais il manque d'artillerie et surtout de chevaux. Le 1er mai, la campagne s'ouvre sur l'Elbe. En 3 semaines, les Russo-Prussiens sont vaincus 4 fois et rejetés sur l'Oder. Lutzen et Bautzen, bataille meurtrière, n'amènent pourtant pas de décision. Le chancelier d'Autriche, Metternich, propose alors un armistice. Un congrès se réunit à Prague pour discuter de la paix. Ce n'est qu'une pièce d'ombre pour amuser les peuples. Le rideau baissé, qui jamais n'eut d'autre idée, se joint à la coalition. Une victoire encore à Dresde, mais inutile. Les alliés reformés entourent Napoléon à Leipzig. Pendant 4 jours, du 16 au 19 octobre, il soutient l'assaut de 3 armées. La plus grande rencontre de tout l'Empire, ce qu'on appelait justement la bataille des nations. Trahi par les Saxons et les Wurtembergeois, manquant de munitions, malgré des efforts désespérés, il doit ordonner la retraite. L'Allemagne est perdue. Au moment où Napoléon repasse le Rhin, les Anglais franchissent la Bidassoa. La campagne de France. Avant de commencer l'attaque suprême qui doit, pense-t-il, abattre l'Empire français, les Alliés renouvellent la comédie de Prague pour rejeter sur Napoléon, suivant le conseil de Metternich, tout l'odieux de la prolongation de la guerre et s'assurer de l'opinion publique avec qui maintenant comptent les souverains. La France est lasse, terriblement lasse. Si le peuple reste fidèle à l'Empire, la bourgeoisie veut la paix à tout prix. Les royalistes s'agitent dans leur cénacle, la forte administration impériale commence à fléchir. Cependant, Napoléon passe les nuits pour tirer du pays inerte les hommes, les canons, les fusils qui le sauveront de l'invasion. Il jette au creuset son épargne privée, s'oubliant dans le temps même où autour de lui les favorisés du règne ne songent qu'à eux. Jamais il n'a été plus alerte, plus laborieux, plus animé d'un dévorant génie. Seul contre un continent en armes, il paraît encore si formidable que Metternich, à certaines heures, doute du triomphe de la coalition. Les armées alliées franchissent le Rhin dans les derniers jours de 1813. Pendant 2 mois, avec une poignée de soldats, Napoléon va recommencer les prodiges de la première campagne d'Italie, vaincre coup sur coup 2 grandes armées, et n'être enfin foudroyé que par la trahison. Vainqueur de Blücher et Schwarzenberg dans des batailles successives, il se décide un brusque mouvement vers l'est pour y rallier les troupes éparses, les maréchaux indécis et ainsi renforcer, fondre sur l'ennemi. Une lettre à Marie-Louise, interceptée, révèle son intention. Le tsar impose au souverain la marche immédiate sur Paris. Il n'a devant eux que Marmont et Mortier avec 22 000 hommes. Les bousculant à Fère Champenoise, le 28 mars, les alliés arrivent devant la capitale. Qu'elle tienne seulement 3 jours et Napoléon la sauve. Prévenu de son danger, il accourt à marche forcée. Mais Paris, où Joseph, lieutenant général de son frère, commande avec faiblesse, ne se défend qu'une journée. La capitulation est signée le 31 à 2 heures du matin. Cette même nuit, Napoléon, ramenant 60 000 hommes, arrive à Juvisy, à 2 foulées de la ville. Il est trop tard, l'empereur se résigne et revient à Fontainebleau. Cependant, à Paris, Talleyrand monte un nouveau régime. Les royalistes, lui ayant promis le pouvoir, il propose une restauration. Il assure le tsar qu'il n'y aura de paix durable en Europe que si Louis XVIII est rappelé au trône. Alexandre se laisse persuader. Les souverains alliés annoncent qu'ils ne traiteront plus avec Napoléon ni avec aucun membre de sa famille. Le 1er avril, Talleyrand convoque le Sénat et fait nommer un gouvernement provisoire qu'il préside. Le 3, ce même Sénat, qui pendant tout l'Empire a vécu aux genoux de Napoléon, proclame sa déchéance. À Fontainebleau, l'empereur songe à reprendre la campagne. Mais les maréchaux s'y opposent, surtout Ney. Il le menace, l'accule à l'abdication. Déjà Marmont, trompant ses troupes, a passé à l'ennemi. Napoléon dit à ses anciens compagnons d'armes « Vous voulez du repos? Ayez-en donc !» Et il signe. Quelques jours plus tard, les alliés lui accordent la souveraineté de l'île d'Elbe. Après un poignant adieu à sa vieille garde, il quitte Fontainebleau et prend la route du sud. Waterloo. La France a retrouvé les limites de 1791 plus une partie de la Savoie et Nice. L'Angleterre se paye sur nos dernières colonies. Louis XVIII octroie une charte et s'installe. Il est fin politique, mais son gouvernement s'empêtre dans une réaction brutale et s'aliène l'ensemble du pays. Au congrès de Vienne, chargé de remanier l'Europe, Talleyrand, qui représente la France, lui a rendu une influence inattendue en se glissant entre les alliés. Mais il a commis une faute essentielle en obligeant la Prusse à renoncer à prendre la Saxe pour s'installer sur le Rhin. Il crée ainsi une cause de conflit permanente entre les deux nations. Comme les travaux du congrès s'achèvent, une nouvelle incroyable parvient à Vienne. Napoléon, qu'on n'appelle plus que Buonaparte, s'est échappé de l'île d'Elbe et abordé sur la côte de Provence. La coalition, un instant disloquée, se reforme aussitôt contre lui. Le premier, Talleyrand, y donne les mains. Napoléon semble avoir été de bonne foi quand, atterrissant à l'île d'Elbe, il déclarait ne plus songer qu'à son repos. Mais Marie-Louise, retenue à Vienne, n'est pas venue le rejoindre avec leur fils. Le traité de Fontainebleau, qui lui garantissait 2 millions de listes civiles, n'est pas exécuté. Il ne pourra bientôt plus payer ni nourrir ses derniers soldats. En France, les royalistes exaltés parlent ouvertement de l'assassiner. À Vienne, il était question de le déporter au milieu de l'océan. Par les amis qu'il garde à Paris, par Marais surtout, il est informé du mécontentement qui croît en France contre les Bourbons. Depuis 2 mois, il est décidé à tenter le retour. Le 26 février, il s'embarque sur le brick l'Inconstant et, suivi de 6 petits bateaux qui portent 1 millier de soldats, fait voile vers la France. Échappant à la croisière anglaise, il arrive le 1er mars au golfe Jean, près d'Antibes. Il ne veut pas tirer un coup de feu. Comme le dit sa proclamation, l'aigle avec les couleurs nationales doit voler de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Il évite la route du Rhône, prend celle des Alpes, par Digne et Grenoble. Les populations l'acclament au passage. Il parle aux troupes qu'on lance contre lui, leur offre sa poitrine nue. Elles se joignent aussitôt à ses vétérans. Lyon lui ouvre ses portes. Ney, après avoir promis à Louis XVIII de lui ramener Buonaparte dans une cage de fer, ne peut résister à l'entraînement général. Il apporte son corps d'armée à l'empereur, qu'il reçoit à Auxerre, comme au lendemain de la Moscova. Le soir du 20 mars, Napoléon arrive à Paris. Arraché de sa voiture par une foule enthousiaste, il est porté en triomphe dans son cabinet des Tuileries, tandis que le drapeau tricolore jaillit de toutes les maisons. Dès le lendemain, ils se mettent au travail. Il s'agit de rassembler et de redresser la France. Ils ne doutent pas qu'il n'ait bientôt sur les bras l'Europe entière, en dépit des assurances pacifiques qu'il fait donner dans toutes les cours, renonçant au despotisme qui lui a été justement reproché par l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, il fonde un empire libéral pourvu d'un véritable parlement. Il évoque les souvenirs révolutionnaires pour galvaniser la nation. Mais le premier instant d'enthousiasme passé, le pays retombe dans l'apathie. Il songe avec angoisse à la guerre inévitable. Autour de l'empereur, Fouché, bien d'autres, intriguent. Napoléon s'aperçoit que la France a changé. Blücher et Wellington sont en Belgique avec 200 000 soldats. Schwarzenberg va les rejoindre, puis les Russes. 400 000 hommes. Napoléon ne se voit qu'une chance de salut, recommencer en Flandre la campagne de France et vaincre l'un après l'autre les alliés. Ils font sur Blücher à Ligny, près de Fleurus, et malgré la trahison du général de Bourmont, ancien chef vendéen qui l'a comblé, le défait, mais le général prussien se retire en bon ordre par la faute de Ney. Napoléon commande à Grouchy de le poursuivre, tandis que lui-même marche sur l'armée anglaise. Il la rejoint le soir du 17 juin sur la route de Bruxelles près de Waterloo. Il a avec lui 74 000 hommes, quelques milliers de plus que Wellington. C'est la première fois qu'il se trouve face à face. Wellington n'est qu'un général assez médiocre mais d'une rare ténacité. Les positions où il s'est établi sont fortes. Napoléon souffrant, ses troupes accablées par la pluie, n'ont pu dormir ni manger. Pour les laisser reposer, afin d'attendre que le sol encore détrempé puisse porter les canons, l'empereur retarde son attaque de quelques heures. Ce retard lui sera fatal. La bataille commence enfin un peu avant midi. Ray essaye en vain d'enlever Hougoumont. À ce moment, Bulow, l'un des chefs de corps de Blücher, vient renforcer la gauche de Wellington. Napoléon, voyant le danger, ordonne l'assaut de la haie sainte. Mais les acharnés et sanglantes dans la boue, les seigles mouillés. À la quatrième reprise seulement, la haie sainte est emportée. Ney, avec sa cavalerie, pousse Wellington, qui s'accroche désespérément au plateau du Mont-Saint-Jean. L'empereur envoie une partie de sa garde soutenir Ney. Haché par la mitraille anglaise, il lui faut reculer. À la droite de Napoléon, qui depuis midi attend Grouchy, rappelé en toute hâte, se dessine alors une sombre ligne d'hommes. Blücher, échappé à Grouchy, a marché au canon pour déborder les Français. La garde tente un suprême effort pour conquérir le Mont-Saint-Jean. Toute l'armée anglaise se rue sur elle. Ney doit abandonner le plateau. Un vent de panique passe dans les rangs français. Les régiments décimés, apeurés, se disloquent et commencent de fuir, poursuivis par la cavalerie prussienne. Seuls les vétérans de la garde, rangés en carré, continuent de lutter sans peur comme sans espoir dans la nuit tombante, autour de Cambronne, de Ney, de l'empereur. À la fin, cette poignée de héros doit se résigner à quitter le champ de bataille. Wellington, ou plutôt Blücher, a vaincu. Revenu à Paris, abri d'abattu, Napoléon compte faire appel au patriotisme des chambres, réunir autour de lui la nation pour repousser l'envahisseur. Tout l'abandonne. Autour de Fouché, dignitaires de l'Empire, libéraux, royalistes, rivalisent de hâte pour l'achever. Sommé par la chambre d'abdiquer, il ne résiste pas. Il gagne Malmaison, puis Rochefort, croyant partir pour l'Amérique et vivre en simple citoyen. L'Angleterre, qui garde les codes, refuse les passeports. Pour ne pas tomber aux mains des agents de Louis XVIII, l'empereur monte à bord du Bellérophon, d'où il adresse un émouvant appel à l'hospitalité britannique. Cet appel n'est pas entendu. Les ministres de Georges III sont des hommes petits, haineux, incapables du mouvement de générosité supérieure qu'attendait Napoléon. Traité contre tout droit en prisonnier de guerre, conduit avec quelques compagnons de hasard à l'île de Sainte-Hélène, perdu à 2000 lieues au fond du sud Atlantique, il subira 6 ans la détention la plus douloureuse, mais aussi la plus utile à sa grandeur. Presque seul, dénué de tout, il mourra le 5 mai 1821 dans sa pauvre maison de Longwood. Mais déjà sa légende est née. Les poètes de tous les pays célèbrent sa gloire et son malheur. Contre les monarques autoritaires et leur politique de revenant, par une déformation singulière, ce conquérant, ce dictateur, va devenir le drapeau des idées nationales et le héros de la liberté. La France ne peut oublier que Napoléon l'a sauvée de la boue. arraché aux jongleurs et aux démagogues, qui lui a rendu l'ordre, l'équilibre, la justice, le goût du travail. Il lui a restitué la famille, la propriété, la religion. Après un duel de 20 ans, la France et Napoléon étaient vaincus par l'Angleterre. Napoléon, lui, disparaît derrière les tropiques sur un volcan écroulé, merveilleusement dressé sur la mer pour lui servir à la fois de gibet et d'autel. Mais la France va continuer. Elle va trouver les hommes qui panseront ses plaies, la rendront à la vigueur et à l'espoir. Toujours dans ses longues annales, il en a été ainsi. Elle a connu des moments sinistres, des heures désolées où les autres peuples, tournant vers elle leur convoitise ou leur pitié, jugeaient qu'elle n'échapperait pas à la mort. Mais chaque fois qu'elle touchait le fond de l'abîme, elle a été sauvée par un être providentiel. Un homme ou une femme, un prince, un soldat, un prêtre, une fille des champs, sont sortis de son sol et l'ont menée vers le salut. Dans l'écroulement de l'Empire, Sainte-Geneviève tient tête à Attila. Au plus épais de la nuit du Moyen-Âge, Charlemagne lui rend la notion nécessaire de l'État, égaré dans la barbarie. Jeanne d'Arc suscite la croisade nationale qui la délivre des Anglais. Henri IV et Richelieu la reconstruisent après l'effroyable tourment des guerres de religion. Napoléon, enfin, la relève de la fosse où la Révolution l'avait fait rouler et la conduit d'un pas si ferme au-devant des rois coalisés qu'il leur fout tomber à genoux. Aucun de ces désastres ne l'a pour longtemps abattue. Elle est sortie plus unie, plus forte, plus drue, plus fraîche des épreuves qui d'abord l'avaient terrassée. Toujours, sous l'impulsion d'un grand chef, elle a repris, légère, ailée, sa marche en avant. Car si elle tient par tant de fibres au passé qu'est la certitude, elle garde ses yeux fixés sur l'avenir qu'est l'espérance. L'espérance, ce mot sans lequel nul ne saurait vivre, nous l'avons depuis l'aurore des temps inscrit sur nos enseignes, gravé dans nos âmes. On peut battre la France, on ne vainc pas son esprit. Et son esprit est ce qu'elle a de meilleur, d'inimitable, ce qui l'a rendu nécessaire au monde, qui tant qu'il existera, en restera imprégné. Nous traversons une période d'angoisse affreuse, mais nos grandes heures ne sont pas finies. Nous en aurons d'autres. Si nous savons nous en montrer dignes par la foi de nos destinées, par la discipline et la capacité de sacrifice. Ce moment, en vérité, est fatidique. Dans le tumulte d'une guerre comme il n'en fut jamais, une civilisation fatiguée disparaît pour faire place à une civilisation neuve. Nous devons y tenir une grande place. Avec la France, pour le monde de demain, tout est possible, car nulle nation n'a comme elle le génie de synthèse et le don des fusions humaines. Sans la France, tout est perdu. Ainsi s'achève Les grandes heures de la France par Octave Aubry.